Radio Prague, les informations.
La menace de grève dans les transports en commun de Prague est maintenue. Les Tchèques considèrent la révolution de velours 1989 comme un événement très important. La situation des Roms tchèques demeure difficile. Les représentants des organisations syndicales de la Société des transports de Prague n'ont pas trouvé de terrain d'entente avec la cellule de crise de la municipalité ce jeudi lors d'une nouvelle réunion relative aux conditions réclamées par les syndicats. Ceux-ci menacent d'organiser une grève, même si le directeur général de la société, Martin Wojak, a précisé qu'un compromis était plus que probable qu'un moment de grève. Les négociations entre les deux parties vont se poursuivre dans les prochaines heures. Selon un récent sondage de l'agence STEM, 2/3 des Tchèques considèrent la révolution de velours comme un des événements les plus importants de l'histoire nationale moderne. Ce sondage révèle également que seulement 43% des personnes interrogées seraient satisfaites de l'évolution des 20 dernières années. Cette catégorie de personnes estime en même temps que la période concernée est la meilleure période de l'histoire du pays. L'armée tchèque est appelée à défendre d'abord la patrie, tandis que ses missions étrangères devraient constituer des activités complémentaires. Le président Václav Klaus l'a déclaré lors d'une réunion du commandement de l'armée tchèque. Le premier ministre Jan Fischer a pour sa part fait savoir que la République tchèque n'allait pas renoncer à son engagement dans des opérations étrangères. La présence des soldats tchèques en Afghanistan sera désormais la principale priorité de cet engagement. 20 ans après la chute du régime communiste, la situation des Roms tchèques ne s'est pas considérablement améliorée. C'est ce qui ressort d'une étude de l'association Roms Geno. S'il existe des éléments positifs, tels que le soutien à la culture ou à la langue rome, on trouve en revanche certains nouveaux phénomènes négatifs, dont la détérioration des conditions de travail de cette minorité ou la montée de l'extrémisme. L'association met sur pied un projet de solution. Le cardinal Miloslav Vlk a donné son autorisation officielle aux fouilles archéologiques qui devraient être effectuées dans les espaces de l'église Saint-Rachtal dans la vieille ville de Prague. Celles-ci chercheront une réponse à la question de savoir si la tombe de Sainte Agnès, comme certains le prétendent, se trouve dans cet espace. C'est au début de l'année prochaine que les premiers travaux pourraient démarrer. Ces jours-ci, 20 ans se seront écoulés depuis la canonisation de cette femme sainte tchèque, issue de la famille princière des Přemyslites. C'est un temps variable qui règne toujours en Tchéquie. Les nuages entraînent des averses, notamment dans le nord et dans l'est du pays. Les températures se situeront ce vendredi autour de 10 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertová.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. À l'occasion du 20e anniversaire de la chute des régimes communistes en Europe, Václav Havel était invité à prononcer un discours au Parlement européen et l'ancien président a profité de l'occasion pour s'en prendre à son successeur, Václav Klaus, et critiquer son euroscepticisme. Toujours dans le cadre de ce 20e anniversaire, nous reviendrons sur un événement important à l'époque en Tchécoslovaquie, aujourd'hui un peu oublié. Le 12 novembre 1989, le pape Jean-Paul II canonisait la princesse Agnès de Bohême. Et puis la seconde moitié de ce magazine sera d'abord consacrée à un fait divers rocambolesque, l'évasion d'un prisonnier tchèque avec l'aide de sa femme, un couple que les médias pragois ont présenté comme les Bonnie and Clyde tchèques. Et puis un des plus grands joueurs tchèques de football de ces 15 dernières années, bien connu du public français, Vladimir Schmitzer, a annoncé sa retraite. Nous l'entendrons en fin d'émission. En attendant, bonne écoute à toutes et à tous. invité dans le cadre d'un débat sur le thème « Qu'est-ce que l'Europe signifie pour moi ?», débat organisé à l'occasion des célébrations du 20e anniversaire de la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale. Václav Havel a prononcé mercredi devant le Parlement européen un discours qui a marqué les esprits. L'ancien président tchèque, grande figure de la révolution de 1989, a notamment critiqué son successeur au château de Prague, Václav Klaus, pour ses positions eurosceptiques. Comme le remarque en une de son édition de jeudi le quotidien Hospodářské noviny, la République tchèque était représentée mercredi à Bruxelles par un président que l'Union européenne préfère aujourd'hui nettement écouter que Václav Klaus. Aux côtés de Jerzy Buzek, ancien responsable important du mouvement Solidarność en Pologne, devenu depuis président du Parlement européen, Václav Havel a ouvert la session par un plaidoyer pour une Europe solidaire. L'ancien dissident, devenu président de la Tchécoslovaquie, a rappelé que l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la disparition du rideau de fer et sans la main tendue par l'Ouest aux nouveaux pays d'Europe centrale et de l'Est. C'est donc un appel à l'humanisme que Václav Havel a prononcé.
Le plus grand souci que l'Union européenne a aujourd'hui avec nous valent la peine d'être accepté. Dans ce contexte, une seule chose peut être demandée à l'Europe, de faire preuve de compréhension et de patience.
Partisan d'une intégration encore plus importante, Václav Havel estime que l'Union européenne devrait être un exemple, une source d'inspiration pour le reste du monde dans sa volonté de construire des relations égales et loyales entre les pays et leurs peuples. Sans jamais citer le nom de l'actuel chef de l'État, il a toutefois clairement visé Václav Klaus lorsqu'il a affirmé que ceux qui considéraient que la politique menée par Bruxelles visait à endommager les intérêts nationaux avaient faux sur toute la ligne. Lors de sa signature à contre-cœur du traité de Lisbonne la semaine dernière, le président Václav Klaus avait déclaré qu'avec l'entrée en vigueur du document et le transfert de compétences qui en découlaient, la République tchèque cessait d'être un État souverain. Des propos que Václav Havel a désavoués, estimant au contraire que la souveraineté nationale et la souveraineté européenne devait se compléter.
Ce n'est pas parce que je me sens européen que je cesse d'être tchèque. Au contraire, en tant que tchèque, je suis aussi un européen. L'Europe est la patrie de toutes nos patries.
Sans surprise, c'est donc sous les applaudissements des députés européens debout que Václav Havel a achevé son discours. Au même endroit, il y a quelques mois de cela, en pleine présidence tchèque, c'est à l'inverse sous les sifflets d'une partie du Parlement que Václav Klaus avait critiqué le déficit de démocratie de la construction européenne et regretté que l'Europe soit la seule alternative pour son pays. Et puis en ces journées de commémoration de la chute du mur de Berlin et de la révolution de velours, un autre événement lié à ces journées pourrait passer inaperçu. Le 12 novembre 1989, le pape Jean-Paul II canonisait la princesse Agnès de Bohême, un moment important pour les croyants en Tchécoslovaquie, mais pas seulement, comme nous le raconte Anna Kubišta.
Ve svém dlouhém životě uprostřed
12 novembre 1989, le pape Jean-Paul II canonise par un discours en tchèque Agnès de Bohême devant une assemblée de fidèles. Pour cet événement symbolique, à plus d'un titre, 10 000 pèlerins venus de Tchécoslovaquie ont fait le déplacement à Rome. Du jamais vu, comme le rappelle Ludmila Pospíšilová de l'Ordre des Sœurs de Saint-François.
Ce n'était pas facile, mais finalement, un grand voyage pour Rome a pu être organisé. Des milliers de personnes ont pu ainsi aller à l'Ouest pour la première fois de leur vie. Sous le communisme, il était évidemment extrêmement compliqué d'aller dans un pays occidental.
Dès le Moyen-Âge, de nombreux souverains se sont efforcés de faire canoniser cette princesse Přemyslide devenue abbesse. En vain, une des conditions requises étant l'existence d'une sépulture, or on n'a jamais retrouvé le tombeau de la sainte. Cette condition tombera au XXe siècle avec la canonisation en 1982 d'un franciscain polonais, Maximilian Kolbe, mort à Auschwitz. Pendant des siècles, le nom d'Agnès de Bohême est rattaché à une prophétie, sœur Ludmila Pospíšilová.
Il existait cette vieille prophétie qui disait que quand la tombe d'Agnès serait retrouvée, les pays tchèques connaîtraient enfin la paix et le bonheur.
En novembre 1989, beaucoup de croyants ont évidemment vu la canonisation d'Agnès de Bohême comme un signe. Cinq jours plus tard, c'était le début de la révolution de velours.
Les gens sont ensuite rentrés de la cérémonie de Rome. Personnellement, je n'y suis pas allée. Je suis restée ici. Mais le 17 novembre, j'étais dans la rue Naroni à la manifestation. J'ai participé du début à la fin. Et je peux dire qu'il y avait une atmosphère spirituelle très particulière. Je l'ai vécue. Dans tous les premiers jours, il y avait une vraie force spirituelle à l'intérieur de chacun.
Si Saint Venceslas est le patron des pays tchèques, Agnès de Bohême est également vue par certains, croyants ou pas, comme une mère protectrice de la nation. Dans une société marquée par 40 ans d'athéisme forcé, la canonisation d'Agnès de Bohême revêtait en 1989 une force symbolique sans précédent, a fortiori parce qu'elle avait été décidée par un pape issu du bloc soviétique. Dans la foulée, la fête de la Sainte sera déplacée ensuite au 13 novembre dans le calendrier liturgique. Petit rebondissement enfin dans l'histoire d'Agnès de Bohême, puisque mardi dernier, un restaurateur a annoncé qu'il pensait avoir retrouvé le tombeau de la Sainte dans l'église Saint-Hachtal à Prague, soit à deux pas du couvent qu'elle a fondé au XIIIe siècle. Mais à deux jours du 20e anniversaire de sa canonisation, cette annonce paraît sinon suspecte, en tout cas un peu prématurée, puisque pour l'heure, seule une prospection par radar a été effectuée.
Pavel Tokhon, un malfaiteur condamné la semaine dernière à 5 ans de prison pour vol avec utilisation d'explosifs, s'est évadé mardi avec l'aide de sa femme et celle d'un deuxième complice qui les attendait dans une voiture pour prendre la fuite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le couple a été retrouvé par la police. La confrontation a entraîné la mort du fugitif tandis que sa femme est hospitalisée. Explosifs, fuite, fusillade, c'est un fait divers d'une rare violence pour la République tchèque que nous retrace Anne-Claire Veluire.
Le scénario est digne d'un film américain et c'est assez logiquement que les médias tchèques ont rapidement surnommé le couple de Bonnie and Clyde tchèques. Pavel Tauchan était un malfaiteur connu des services de police. Âgé de 42 ans, il n'en était ni à sa première condamnation, ni à sa première évasion de prison, puisqu'il s'était évadé de celle de Bitige, à côté de la ville de Přibam, en juillet 1999. Retrouvé par la police au mois de novembre de la même année, il avait été à nouveau arrêté après une fusillade au cours de laquelle il avait été blessé au bras. Condamné le 2 novembre dernier pour plusieurs cambriolages, il était incarcéré dans la prison de Plzeň. Selon le quotidien Pravo, les deux époux ont échafaudé un plan d'évasion le jour de son jugement, alors que la juge leur avait octroyé quelques petites minutes d'intimité. Pavel Tauchen savait qu'il serait conduit à l'hôpital civil de Plzeň pour une visite médicale. C'est donc là que Dagmar Tauchenova, sa femme, est venue le chercher, menaçant avec une arme à feu les hommes qui lui servaient d'escorte. Ces derniers n'ont pas pu utiliser leur arme à cause de la présence de nombreux civils dans l'établissement. En quelques minutes, donc, les époux avaient quitté les lieux à bord d'un véhicule conduit par un deuxième complice. C'est cette voiture qui a fait l'objet de toutes les recherches de la police tchèque pendant une trentaine d'heures. Mardi soir, la police avait installé de nombreux barrages et effectué de nombreux contrôles recherchant la fameuse Škoda Fabia bleue sur laquelle ils ont réussi à remettre la main mercredi 11 novembre aux alentours de 19h30 en Bohême du Sud. On écoute Anna Dordova, porte-parole de la police de la Bohême du Sud.
Après plusieurs heures d'enquête, les personnes recherchées ont été retrouvées pendant l'intervention de la police où a été contrôlé le véhicule recherché dont l'équipage était armé. L'homme recherché est mort de ses blessures et la femme recherchée a été blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital pour être soignée sur les lieux. L'inspection de la police a repris l'affaire.
Dagmar Tauchenova a reçu une balle dans la poitrine. Si son état est grave, ses jours ne semblent plus être en danger, mais son mari a été touché par une balle dans la tête, il est mort sur le coup. Certains médias émettaient toutefois l'hypothèse d'un suicide. Jeudi après-midi, l'inspection de la police a confirmé que la balle qu'il a reçue ne provenait pas d'une arme d'un policier.
On termine avec du football. À 36 ans, Vladimir Schmitzer a décidé de raccrocher les crampons. Celui qu'on appelle plutôt Smisser en France vient de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Mais l'ancien joueur de Lens et de Bordeaux va rester dans le monde du football professionnel. Il vient en effet d'être nommé manager de l'équipe nationale aux côtés du sélectionneur Michal Bilek. La carrière de Schmitzer est riche de trophées gagnés dans plusieurs championnats, du titre de champion de France avec Lens notamment, mais aussi en Angleterre où il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. À l'occasion de la retraite d'un des plus grands joueurs tchèques de ces 15 dernières années, Radio Prague rediffuse l'extrait extrait d'un entretien réalisé en juillet 2007 avec Vladimir Schmitzer au moment où il venait de signer avec son club formateur, le Slavia de Prague, après avoir quitté les Girondins de Bordeaux.
Oui, j'étais déçu parce que la dernière saison en France, c'était vraiment déception pour moi, j'étais blessé. Après, j'ai bien récupéré, mais deux, trois derniers mois, j'ai presque jamais joué. Alors, ouais, c'était déception par rapport à ce qui se passe en France. Alors, maintenant, je suis très content que je peux revenir jouer pour Slavia et c'était mon club où j'ai débuté, mon carrière professionnelle. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est dommage que ça se finisse comme ça pour moi en France.
Bordeaux n'a pas souhaité prolonger votre contrat d'une année supplémentaire. En revanche, y a-t-il d'autres clubs en France ou même à l'étranger qui se sont manifestés?
Pas vraiment, parce que vraiment, quand j'étais blessé en France, les clubs, ils n'avaient pas confiance à mon état, comme moi je suis. Ils n'étaient pas persuadés que je suis capable encore de jouer une saison de plus, quoi. Alors, c'était très difficile en France. Moi, j'avais espéré que peut-être avec Ivan Hašek, s'il avait resté en France, j'étais d'accord avec lui, qu'il m'apprend, que je serais avec lui. Mais malheureusement, lui, il a pas trouvé aussi aucun club. Alors, c'était fini après pour moi.
Y a-t-il eu d'autres propositions dans d'autres pays? Lorsqu'un joueur arrive en fin de carrière, surtout avec une carrière comme la vôtre, en général, il y a beaucoup de pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite qui se présentent. Est-ce une éventualité que vous avez envisagée?
Oui, c'était une possibilité, mais aussi c'était le cas que je ne voulais pas partir tout seul. Je voulais partir avec Ivan ou avec quelqu'un, avec autre joueur. Je ne voulais pas partir d'un pays comme ça, très loin de ici, et encore tout seul. Et on n'a pas trouvé de solution. Mais c'est vrai que j'avais quelques possibilités. J'avais la possibilité de Turquie, de Grèce, Israël, mais c'était un petit peu difficile pour moi. Partir à 34 ans pour un an comme ça. À la fin, j'ai préféré rester ici au Slavia parce que Slavia, ils m'ont proposé encore 3 ans plus après, travailler pour le club, dans la direction du club. Alors, c'est très intéressant pour moi. C'est pas le contrat pour un an, c'est presque un contrat pour 5 ans. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que je reste ici.
Cela fait désormais 11 ans que vous avez quitté le Slavia et le championnat tchèque. Ne craignez-vous pas ce retour?
Ouais, bien sûr. Ça ne sera pas certainement facile pour moi parce que les expectations sont grandes et il faut que vraiment je suis top physiquement, il faut que je suis bien en forme. Après, je n'ai pas de soucis, je pense après ça ira. Mais c'est vrai, les gens parfois ils oublient que j'ai 34 ans, que j'étais blessé, que je n'ai pas joué pas beaucoup le dernier an. Alors, vraiment, tout dépend de moi, parce que vraiment, si je ne serai pas bon, après, ça peut être difficile, et retour peut être vraiment difficile après.
Voilà, c'est donc avec Vladimir Schmitzer que s'achève ces faits événements, mais pas le programme en langue française de Radio Prague. Merci donc de rester à notre compagnie.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Bonjour Jiří Slavíček. Alors nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes notre correspondant à Paris. Vous êtes ici à Prague pour quelque temps et vous nous faites donc le plaisir d'être avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette émission pour plusieurs raisons, parce que c'est l'occasion un petit peu de parler avec vous de votre parcours singulier, comme beaucoup de ces Tchèques qui sont partis en France, qui ont émigré en France. Et puis c'est aussi l'occasion de voir avec vous un petit bout de l'histoire de la Tchécoslovaquie à travers vos yeux.
Bah, c'est peut-être un peu trop, mais on va essayer.
Et puis évidemment, en fait, cette année, les 20 ans du 17 novembre 1989, alors ce serait un peu l'occasion aussi de convoquer vos souvenirs à vous, votre point de vue depuis la France.
Bah, vous savez, il faut regarder cet événement à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un immense bonheur puisque on commençait à compter les heures qu'on pourrait revenir, qu'on pourrait revoir Prague, ce qui paraissait d'incompliqué. Et d'un seul coup, il y avait des choses qui tombaient. De notre côté, il y avait une tristesse tout aussi immense puisque quand on regarde ça, même avec des années plus tard et tout, on était quasiment pétrifiés, puisque comment se fait-il que le pays de Havel pourrait être aussi attardé, aussi retardé, aussi en retard, puisque on n'était pas les premiers. Déjà, je garde précieusement à la maison, à côté de mon lit, un cadeau des reporters de Radio France, de Service Public, de France Inter et de France Info, puisque j'étais au secrétariat des infos et ils m'ont apporté le morceau, et chacun le morceau de mur.
Le morceau du mur de Berlin qui était tombé plus tôt.
Plus tôt, et pas seulement ça. Moi, j'avais l'impression, et ça ne me quitte pas encore maintenant, que la vieille garde communiste de Bohème s'est vraiment abritée par le mur, et c'est pas la révolution de velours, velours ou pas velours, qui a gagné, mais c'était puisque ils étaient tellement appuyés sur le mur qu'ils tombaient, puisqu'ils tombaient avec. Mais c'est pas eux qui ont fait ça. Les Polonais, les compagnons d'infortune, les Polonais, les Hongrois, les citoyens de l'Allemagne de l'Est, tout le monde était à 3-4 longueurs d'avance. Et ici, c'était quelque chose de difficile.
Alors concrètement, quand ici ça a commencé à bouger en Tchécoslovaquie, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à Paris ?
Radio Publique Française a réagi, j'y étais quand même un tout petit peu pour quelque chose, a réagi très bien en transmettant la messe de minuit en direct d'une petite église à côté de Pontcharles. Tout le monde était heureux, ravi. C'était la première messe de minuit de fin d'année de 89. Et c'était très bien.
Donc à Noël.
Ah oui. Les gens, les auditeurs français qui n'avaient, réagissaient extrêmement bien. Le prêtre servait la messe aussi bien en tchèque qu'en français. Le français était le français du lycée, oublié depuis longtemps. Mais l'émotion était extrêmement forte.
Pour faire court, voilà, vous avez quand même passé, disons, une vingtaine d'années en France, hein, sans voir votre pays. La première fois que vous êtes revenu en Tchécoslovaquie, justement, dans cette atmosphère post-révolution de velours, comment est-ce que vous avez ressenti les choses en arrivant ?
Moi, je suis toujours, et jusqu'à maintenant, intimement persuadé que le plus grand révolutionnaire de toutes les époques en Tchécoslovaquie ou en Bohême-Moravie, c'était le livre de cuisine de Dobromila Retigova, puisque quand on lisait ça et on voyait ce qui était dans les magasins, c'était un livre de science-fiction ou de rêve. La Radio France nous a prêté un technicien hors pair. Il était maître en ouverture des huîtres. Il, par téléphone, on a réservé du vin blanc de Moravie, de le plus sec qu'ils avaient. On a mis à côté des trois tables les trois seaux pour les coquilles et on a ouvert deux bourriches d'huîtres et on a bu au retour et toute ma génération a pu quand même goûter, mais c'est vrai que le communisme a fait ravage jusqu'au l'estomac des braves gens, parce qu'ils avaient peur.
Personne n'a supporté.
Non, tout le monde l'a supporté, tout le monde était. Mais ils avaient peur, puisque comment on mange ça vivant ? Jusqu'à maintenant, pour beaucoup de gens, il y a une confusion entre moules et huîtres.
Une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on se quitte.
Le temps passe.
Le temps passe, malheureusement, trop vite. Quel est votre regard sur la situation politique, sociale, sur le moral, j'allais dire, de la République tchèque à l'heure actuelle,
hein. Comme on dit en France, c'est une bonne question. Je trouve ça assez terrifiant, puisque comme je suis d'une époque révolue, j'essaye de regarder ça de loin, d'en parler le moins possible, mais disons qu'on peut être fier de quelques journalistes. Avant qu'on arrive au studio, j'ai passé en revue qu'en partant par le tram, il y avait un bouchon, donc on passait tout doucement, quelques hommes politiques, mais l'ensemble, c'est terrifiant. On était chef de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a saboté la présidence de l'Europe. Et moi, je trouve qu'on est depuis l'Autriche-Hongrie des champions du ridicule et de braves soldats Schweiz.
Alors, vous faites remonter ça à l'Autriche-Hongrie, vous?
Bah, même avant. Mais à l'Autriche-Hongrie, sûrement, puisque on était là. Écoutez, vous avez gagné des élections. On est très contents. Vous voulez gouverner? Mais non! Non, mais où sommes-nous? C'est Schweik en Première Guerre mondiale. Et là, maintenant, on a un gouvernement soi-disant des techniciens. Et donc, les hommes politiques, si on stricto sensu, ils sont en vacances, bien payés. Bon, écoutez, il y a une crise, paraît-il, quelque part. Donc, vous nous sortez de la crise et après, on va expliquer au peuple que maintenant, les jours meilleurs vont arriver grâce à nous. C'est innommable.
Est-ce que vous pensez que la République tchèque a manqué, finalement, son entrée en démocratie?
J'aurais préféré louper, puisque, comme le dit un journaliste, heureusement pour nous, francophone, pas francophile, Adam Černý, maintenant de Hospodářské noviny, qu'il a utilisé les deux mots, on a loupé la présidence et on a gâché, on a spatzkal, on a gâché l'époque de post-présidence et la préparation des élections. Mais c'est vrai que depuis le début, je peux dire depuis Havlíček, depuis la révolte contre le palais impérial, on est champion de gâchis. Et on s'y applique et on y arrive.
Merci beaucoup, Jiří Slavíček, de nous avoir accordé votre temps. On vous réentendra bientôt sur nos ondes, mais depuis Paris.
Merci.
Voilà, et c'est la fin du programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention et de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est dès demain. À très bientôt, donc. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.